Bonsoir, comme on dit, ça passe ou ça casse, le in et le out dans un mouchoir de poche, lequel l'emportera, chacun retient son souffle. Hein. Sur place, tout d'abord, parce que outre les conséquences économiques, il y aura des conséquences politiques, géographiques également, qui pourraient peut-être faire que le pays soit redessiné, donc avec quid de l'avenir de David Cameron, le Premier ministre. Quid des Écossais, de l'Irlande du Nord également. Et puis conséquence également sur la construction du continent européen, quel que soit le résultat. Alors ce 23 juin 2016 est-il une date historique? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Le 23 juin 2016, date historique, on verra évidemment, je le disais, chacun retient son souffle et restez avec nous toute la soirée sur BFM Business, à la télé, à la radio, édition spéciale tout à l'heure à partir de 22h30 jusqu'à minuit avec tous nos envoyés spéciaux, Delphine Liu qu'on va retrouver dans une poignée de secondes, Benaoud Abdedaïm, Grégoire Favet et puis un très beau plateau d'experts, plateau de décodeurs de l'écho. Tiens d'ailleurs, ceux qui vont nous accompagner une partie de la soirée jusqu'à 20h30 et puis peut-être après encore, voici Sophie Loussoir, une spécialiste de la Constitution britannique, la meilleure historienne en France, hein, professeure à l'université Sorbonne Nouvelle, grande connaisseuse du Royaume-Uni. Avec nous également Arnaud Vessy. Arnaud Vessy, il est le PDG d'International SOS, il est le cofondateur du Cercle d'Outre-Manche. Didier Gutiérrez-Péris, directeur de Via Voice Affaires Européennes, vous savez, l'institut de sondage et d'opinion Via Voice que préside François Miquet Marty. Et puis Olivier Campenon, il est directeur du Cercle économique franco-britannique de la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique. Un petit peu plus tard, d'autres invités, d'autres décodeurs de l'écho. Alors ce matin, ce sont les journaux britanniques qui mettaient évidemment à la une, hein, le caractère historique du vote. Le jour d'indépendance, titrait le Sun, pro-Brexit. Le Times, pro-Union européenne, parlait du jour du jugement dernier. Voilà, rien que ça, justement, quand je vous parle de date historique. Hein. Delphine Liu, elle est en direct, évidemment, avec Alice Fenwick depuis Londres. Elle va nous accompagner toute la soirée, Delphine, bien entendu. Delphine Liu, donc, est-ce qu'on a le sentiment, là-bas, de vivre une journée historique? Comment s'est passée cette... journée de vote, est-ce qu'il y a eu du monde justement dans les bureaux de vote?
Ça s'est passé sous la pluie, en tout cas, et ça ne semble pas avoir empêché les gens d'aller voter. Hein, même si on n'a pas, comme en France, d'indication sur le taux de participation, les réseaux sociaux sont pleins de photos avec des queues qui se forment dehors, en dehors des bureaux de vote. On attendait une participation entre 60 et 70%. Participation donc forte, a priori confirmée, malgré la météo, malgré notamment les inondations dans le sud de l'Angleterre qui ont obligé certains bureaux de vote à déménager. Côté sondage, le tout dernier sondage qui vient de sortir, sondage en ligne, donne une avance de 10 points au camp du IN, au camp du maintien. Bon, il faut dire que les sondages, hein, peu de personnes y font très attention ici, se sont montrés relativement peu fiables lors des derniers scrutins. Hein, souvenez-vous, les élections générales l'année dernière avec finalement une large majorité contre toute attente pour David Cameron. Les bookmakers, en revanche, donne le camp du maintien avec une très large avance à 80%, mais voilà, ça se suit et ne se ressemble pas en ce qui concerne les sondages. Les résultats, on les aura tard dans la nuit, éventuellement même peut-être un peu plus tard demain dans la matinée. On aura néanmoins peut-être une indication puisque les hedge funds et certains investisseurs ont commandé leur propre sondage sorti des urnes et du coup, eh bien, les mouvements sur les marchés financiers pourront peut-être nous donner une petite indication hein, si on voit la livre faiblir ou les obligations remonter un valeur refuge. Ça peut vouloir dire que le Brexit a gagné et inversement.
Voilà, Delphine Liu qu'on va retrouver évidemment tout au long de la soirée. Justement, on verra eh bien, comment se déterminent ces fameux fonds donc tout à l'heure. En milieu de soirée, vers 22h30, 23h, on verra édition spéciale. À tout à l'heure, Delphine Liu. Tiens, Sophie Loussoirne, la pluie qui tombe sur la pauvre Delphine, hein, vous l'avez entendu, hein, c'était assez fort d'ailleurs dans le centre de Londres. Allez, qu'est-ce que ça signifie sur l'issue du scrutin?
Écoutez, beaucoup de pluie, scrutin heureux. La pluie n'a pas empêché les Britanniques d'aller voter dans le sud-est de l'Angleterre et à Londres. Hein. On a vu David Cameron aller voter à Westminster Hall dans l'église méthodiste à côté de Westminster avec son épouse. Les Britanniques se sont mobilisés, peut-être pas autant que pour le référendum sur l'indépendance de l'Écosse où 84,6% des Britanniques avaient été votés. Mais je pense que les 10% d'indécis feront une grande différence dans le résultat du vote.
Et apparemment, les deux camps poussent justement les indécis, les électeurs à aller voter jusqu'à la dernière minute.
Jusqu'à la dernière minute, Stronger in the EU a appelé tous les électeurs à voter. Les 46,5 millions d'électeurs qui ont le droit de voter aujourd'hui, entre 7h et 22h. Les deux sondages ont donné le maintien dans l'Union européenne gagnant, Populus avec 55% et Ipsos Mori qui a toujours été assez fiable avec 52%. Mais il faut être très prudent et cela sera très serré.
Didac Gutierrez-Péris de Via Voice, justement, les sondages, comment est-ce qu'ils ont travaillé les instituts de sondage? Comment est-ce qu'ils travaillent là-bas au Royaume-Uni par rapport à chez nous?
Un peu comme nous, mais c'est vrai qu'il faut se méfier. En Angleterre, après l'échec total des sondages aux dernières législatives, tout le monde est en train de prendre avec beaucoup de précautions les sondages. Donc,
on va le rappeler, personne ne voyait une victoire éclatante comme celle de Cameron, donc c'était en mai 2015, l'an dernier.
Voilà, et aucun sondage n'avait prédit ce résultat. Donc, en Angleterre, tout le monde, prend avec beaucoup de précautions ces derniers sondages. Il y a quand même un point intéressant dans la participation, c'est que la participation peut nous donner déjà une idée assez claire du résultat. En tant que si c'est entre 60 et 70, les calculs qu'on fait, c'est qu'il y aura une bonne participation et donc ceux qui étaient Remain auront été finalement mobilisés. Mais il y a quand même une contradiction ou quelque chose d'intéressant, c'est que si on dépasse les 70-75, c'est possible qu'il y ait un anti-establishment mobilisation, donc des personnes qui n'ont pas l'habitude de voter qui vont aussi se mobiliser.
Donc pro-Brexit ce coup-ci.
On a quand même une idée sur ce vote-là.
Donc on ne sait pas très bien, là, au moment où on se parle, il est 19h04.
Je pense que les sondages vont
19h18.
Vont être assez larges pendant toute la soirée, ouais. Et puis on verra bien.
C'est cette campagne, tiens, Arnaud Vessier, vous qui vivez à Londres, à la tête d'International SOS, jusqu'à ce matin, j'ai l'impression qu'on a cherché à dramatiser, les deux camps, donc une zone euro en faillite face à un océan de prospérité perdu à cause de l'Europe, voilà ce qu'on pouvait entendre dans le camp du Brexit, un pays qui va sombrer s'il quitte l'Union Européenne, voilà ce qu'on entendait dans le camp du Bremen. Bon, un peu exagéré un peu ou pas? Il était temps que ça se finisse cette campagne?
Ah oui, on a beaucoup beaucoup exagéré, mais ça montre aussi le sentiment anti-européen fondamental de la Grande-Bretagne. Comme le citoyen britannique est un homo economicus, c'est qu'on lui dit toute la journée que quitter l'Union, c'est une catastrophe économique, on se retrouve avec des sondages plus ou moins équilibrés. Mais ça montre à quel point le sentiment national britannique est contre l'Europe. Parce que effectivement, les arguments sont puissants. Les arguments disent aux citoyens, vos mortgages, et c'est le problème numéro un des Britanniques, vos emprunts immobiliers vont augmenter. Première dépense pour les Britanniques, la croissance va diminuer et le chômage va remonter. Argument fort et relié par quand même l'essentiel de la classe politique dans un pays où l'économie compte. Donc, je trouve que le sentiment, quel que soit le résultat final, aura montré un pays fondamentalement anti-européen.
Et ça va nécessiter, justement, quel que soit le résultat, demain, le in ou le out, on va quand même se poser des questions, reconstruire, comme on va reconstruire peut-être, se poser des questions aussi sur l'ensemble de la construction européenne.
Oui, bien sûr, il y a reconstruction, mais c'est
La société britannique va se poser des questions.
C'est-à-dire qu'ils sont dans une impasse vis-à-vis de l'Europe. Puisque l'Europe, à partir du moment où il y a l'euro, ne peut que s'intégrer plus fort si l'euro doit survivre, et ils ne seront jamais dans l'euro. Donc, de toutes les façons, ils vont être des passagers dans la voiture. Or, pour les Britanniques, être des passagers, c'est intolérable. Donc, ils sont dans une expérience...
Acteur numéro un ou rien, quoi.
Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de vrai succès pour eux.
Il y a un sentiment de fierté quand même, peut-être de frustration qui a régné tout au long de cette campagne également, Olivier Campenon.
Oui, de frustration et de frustration sans doute par rapport à l'incertitude que ça a été créé, surtout dans le milieu économique. On vient de le dire, le monde économique n'aime pas l'incertitude. Vous leur dites au 23 juin à l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas dans quel sens ça va aller. Automatiquement, les marchés paniquent, vous les avez vus.
La semaine dernière,
ça remonte.
Ah oui, bien, donc, d'ailleurs, cette semaine.
Ça remonte très bien. Donc, une incertitude qui a mis à mal beaucoup des entreprises, en particulier dans leurs investissements futurs. Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut noter, c'est que on a un certain nombre d'entreprises qui ont attendu et qui attendent demain pour savoir, oui ou non, je vais continuer à accélérer.
C'est ce que nous disait d'ailleurs hier soir dans ce studio des décodeurs de l'écho, Alexis de Bretteville, à la tête du cabinet Hudson, l'un des géants mondiaux du recrutement. Mm-hmm. C'est dans un certain nombre d'entreprises britanniques, on a gelé toute embauche, on attend le 24.
On attend le 24. Il y a peu d'entreprises qui ont dévoilé leur plan, oui. Mais vous pouvez être certain qu'elles ont toutes évidemment le plan pour le in et le plan pour le out. Et je crois que l'ensemble de la communauté économique est restée excessivement prudente, mm-hmm, dans toute annonce.
Arnaud Vessier, International SOS.
Je suis un petit peu en décalage là-dessus. Je pense que pour la City, l'impact va être immédiat. Le monde financier est un monde d'anticipation. Donc si
l'impact va être immédiat si Brexit.
Oui,
d'accord.
Bon. Les autres entreprises, il y a des projets immobiliers qui sont immobilisés aujourd'hui, des projets d'investissement sont immobilisés. Mais en revanche, en tout cas, je sais que mon entreprise n'a pas de plan B. Et honnêtement, la plupart des entreprises se mettront au travail une fois que le résultat sera connu. Ouais, ouais. Parce que, d'abord, le choc va pas être immédiat pour les entreprises, il va être pour le secteur financier.
Et la Terre va pas s'arrêter de tourner. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, aussi bien sur le continent, avec des prises de position parfois lourdes, excessives, hein, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, hein, justement, que au Royaume-Uni, justement. On a agité le chiffon rouge en permanence.
Pas bon pour la croissance, mais ça va pas se... Les conséquences seront...
Ce filoustoir de la campagne, elle n'a pas été polluée par l'intervention quotidienne venue de grands dirigeants européens, allemands, français, bruxellois, luxembourgeois, etc.
Cette campagne a été délétère. Ah. Cette campagne a cherché à faire gagner le camp du maintien grâce aux interventions des chefs d'État étrangers, d'Obama qui est venu en visite officielle au Royaume-Uni pour inciter les Britanniques à rester dans l'Union européenne, car c'était un des atouts pour l'influence britannique. Et puis aussi un atout pour l'économie britannique, comme on l'a rappelé. En effet, en cas de Brexit, il y aurait des turbulences financières à court terme et à moyen terme. Une chute de la livre sans doute de 20%. Les investissements étrangers...
C'est ce qu'on a dit, on a entendu tous les chiffres, pardon,
oui,
Sophie. Hein,
oui,
certains ont dit 5, 10, 15, vous dites 20. Bon, finalement, est-ce qu'on sait exactement?
Non, on ne peut pas savoir exactement. Mais enfin, les investissements étrangers chuteraient au Royaume-Uni et le Royaume-Uni attire beaucoup d'investissements étrangers. Et ensuite, l'inflation également augmenterait, donc le pouvoir d'achat des ménages serait touché.
La campagne délétère, vous nous dites, pas toujours digne hein, quand même.
Hein. Non, parce que je crois que
Boris Johnson,
pour des soucis de carrière,
piquer la place clairement de David Cameron,
a agité des arguments passionnels qui ne sont pas crédibles. Il a dit aux Britanniques qu'ils retrouveraient le contrôle sur leurs frontières,
sur leurs lois, sur leurs finances.
L'immigration, voilà. Rien ne le prouve non plus, et qu'ils auraient davantage de pouvoir d'achat, c'est entièrement faux, car on voit bien qu'en cas de Brexit, il y aura en effet une perte de pouvoir d'achat et une inflation de 4%.
Dida Gutierrez-Péris, Via Voice.
Mais en même temps, on peut les comprendre, parce que de la bouche de la commissaire Georgieva, on sait qu'il y a plein de rapports législatifs à l'Union européenne qui sont complètement stoppés, qui sont stoppés maintenant pendant plusieurs mois. Et maintenant, les deux ans vers lesquels on rentre, c'est les élections en France, c'est des élections en Allemagne. Donc potentiellement, le rythme législatif et le rythme décisionnaire qu'il faudrait pour relancer l'Europe ne sera pas au rendez-vous.
Elle va être stoppée, bien sûr. Hein.
Donc, à un moment donné aussi, on comprend bien que peut-être on aurait, dans la tête de certains dirigeants européens, peut-être on aurait pu s'en passer.
Olivier Campenon, de la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique.
Je voudrais revenir très rapidement sur les scénarios de l'exit, pour bien comprendre s'il y a un livre, ce qui va se passer. Et pourquoi toutes les entreprises ont comme ça levé le pied et sont en attente. C'est que soit le choix est pour la Grande-Bretagne de rester dans le IEA, bon, pas trop dans le détail, mais dans cet espace économique où se situe la Norvège.
Tout juste l'Islande, la Suisse.
Et... Vous êtes donc dans une situation où vous continuez d'avoir accès au marché commun et au libre mouvement des biens. Auquel cas, l'Angleterre n'a rien fait d'autre que de continuer à payer 20% de moins, mais continuer à payer l'Europe, et finalement se trouve dans une situation où ils sont simplement spectateurs. Là, pour l'entreprise, ça leur permet de continuer effectivement le marché comme avant. Soit ils en sortent et ils rentrent dans un accord bilatéral, et vous rentrez dans une incertitude qui a duré 3 ans pour le Groenland, qui pourrait durer combien d'années ?
Parce qu'il faut négocier, il faut discuter point par point, dossier par dossier.
Vous êtes une société qui travaillait en Angleterre et qui a un marché, donc je vous rappelle, 40%, plus de 40% des exportations anglaises vont
sur le continent de l'Union européenne.
Donc, vous êtes une de ces sociétés, vous vous retrouvez tout d'un coup avec une barrière douanière, vous vous rendez compte l'impact. Inversement, vous êtes une société française qui est en concurrence avec une de ces sociétés anglaises. Ah, vous vous dites, tiens, il y a peut-être une ouverture pour moi. Vous voyez, donc l'impact va être d'abord et avant tout l'incertitude d'être incapable de répondre à cette simple question avant 1-2 ans.
Oui, bon, pour l'instant, on n'en est pas là, évidemment, Sophie Lossoir. Pour l'instant, au moment où on se parle, voilà, c'est toujours
Ricky Rack. Vous évoquiez les deux cas, l'espace économique européen qui transformerait le Royaume-Uni en Norvège, sans avoir son mot à dire sur la politique européenne, et donc tout en payant 80%. Soit l'accord bilatéral comme la Suisse, la Turquie. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir des échanges commerciaux inscrits dans les règles de l'Organisation mondiale du commerce.
Du commerce, oui. Enfin, en même temps, en Norvège, les Norvégiens, ils sont pas morts.
Je suis un peu plus sceptique parce que si la catastrophe était telle devant nous, il n'y aurait pas du 50-50 dans les sondages dans un pays qui s'intéresse autant à l'économie. La Grande-Bretagne est une immense économie en Europe. C'est la deuxième économie européenne. C'est notre deuxième excellent commercial pour la France. C'est pas un pays qu'on va laisser tomber. Les Allemands vont pas mettre à l'écart la Grande-Bretagne demain. Parce que les Allemands, la dernière chose qu'ils veulent, c'est de se retrouver en tête à tête avec les Français. Donc, évidemment, c'est l'incertitude. Et c'est pour ça qu'on est tous d'accord sur le fait que ce soit mauvais. En revanche, moi, les scénarios à moins 20% sur la livre, à moins 5%, à 4% d'inflation, etc., me paraissent absolument out of thin air. Et personne ne le sait. C'est pas bon pour l'économie. Mais la Grande-Bretagne est une trop grande économie pour qu'elle se mette à l'écart.
On vient juste sur la campagne qui se termine, puisque évidemment, là, il est 19h28, on attend. Les bureaux ferment à quelle heure, Sophie ?
À 22h.
À 22h, bien sûr, 22h, donc 23h, heure de Paris.
Paris,
oui, c'est ça, tout c'est juste. C'est pour ça qu'on fait une édition spéciale tout à l'heure. Oui, la campagne, juste un mot, l'influence de l'assassinat de la malheureuse députée travailliste, Jo Cox.
Alors, je crois que finalement, le meurtre de Jo Cox, cette députée travailliste, à Bristol jeudi, aura fait réfléchir les Britanniques sur cette campagne xénophobe les fera revenir à la raison. Parce que finalement, on a vu combien ce spectre du nazisme agité par Nigel Farage, cette affiche.
Nigel Farage, c'est UKIP, hein, en effet, avec cette affiche qu'il a mis en avant.
Parti souverainiste.
Pour effrayer donc les Britanniques de l'afflux.
Qui sont
de réfugiés
qui sont
venus d'Irak, venus de Syrie, voilà.
Oui. Je crois que maintenant, avec l'hommage qui a été rendu à cette députée à la Chambre des communes lundi, les Britanniques se sont unis et ont retrouvé leurs valeurs nationales et ce qu'ils partagent, les valeurs démocratiques qu'ils partagent avec l'Union européenne.
On a beaucoup parlé d'immigration, d'Ida Gutierrez-Peris, de Via Voice dans cette campagne. Si vous nous suivez à la télé, on vient de montrer cette affiche justement de UKIP avec Nigel Farage devant, enfin c'est un montage bien sûr, devant donc ces réfugiés venus de Syrie, venus d'Irak, enfin dont on peut supposer qu'ils viennent du Moyen-Orient. Breaking point, voilà, l'Union européenne a tout raté, nous a pas protégé quelque part. Oui, l'immigration, c'est un petit peu un épouvantail qui a été brandi dans cette campagne autour du Brexit.
Oui, je
à tort.
À tort, mais ça démontre un petit peu ce qu'on disait juste à l'instant. C'est une campagne qui met l'accent dans la crise même identitaire de l'Union européenne. Est-ce qu'on veut être ensemble ? Qu'est-ce que l'Union européenne ? Et la question qui était posée, elle n'était pas finalement en relation avec la renégociation qu'a réussi Cameron, c'était clairement une question d'identité européenne.
Juste.
Donc je pense que là, quand même, il y a une partie de la réponse de pourquoi finalement le vote dérange ou a provoqué une campagne si viscérale. C'est parce que finalement, la Grande-Bretagne est en train de nous inviter à tout le monde, à toute l'Union européenne, à nous poser la même question.
Les mêmes questions, les mêmes réflexions. Alors, le rôle de l'Union européenne. Est-ce que ça doit être une Union européenne intrusive? Est-ce que c'est une Union européenne qui doit tout niveler? Est-ce que c'est une Union européenne qui doit nous protéger entre guillemets d'immigrés qui viendraient de je ne sais où, que ce soit des Est-Européens, des Européens de l'Est, en tout cas en Grande-Bretagne, ou des réfugiés venus du Moyen-Orient? C'est toutes ces questions qu'on va se poser en France, qu'on va se poser aux Pays-Bas, qu'on va se poser peut-être en Espagne le week-end prochain.
Oui, c'est là où il faut rebondir avec la bonne dose de lucidité, parce que c'est vrai que c'était une campagne très ancrée sur des enjeux internes. Même la convocation du référendum a beaucoup à voir avec la position de Cameron à l'intérieur de son propre gouvernement.
On y reviendra d'ailleurs sur l'avenir de Cameron. Mais, justement, est-ce qu'il n'a pas joué un peu avec les allumettes, hein,
Ça déclenche quand même quelque chose de plus grand.
Olivier Campenon de la Chambre de commerce franco-britannique.
Vous avez dit justement, l'immigration était un des points centraux. Le deuxième point, c'était la régulation, la réglementation,
et
qui est revenu très souvent sur le tapis. Il y avait des exemples extraordinaires de si vous vendez un oreiller, vous êtes soumis à 120 réglementations différentes, simplement parce qu'il y avait des formes de pattes qui sont en forme d'oreiller. Donc, évidemment, tout d'un coup, on appliquait ces choses-là. Alors, pour autant, juste une rapide petite histoire, parce que je trouve qu'elle est assez révélatrice. Nous avons tous eu des goûters d'anniversaire dans les écoles où on amène une tarte qui est ensuite partagée et vendue pour au profit de tel ou tel...
La kermesse de l'école.
La kermesse de l'école. Eh bien, cette kermesse de l'école s'est amenuisée en Angleterre, parce qu'en Angleterre, ils ont appliqué les réglementations européennes qui imposent que tout soit emballé.
Oh.
Et donc, on ne pouvait plus apporter l'apple pie emballé. Oh. Donc, c'est un effet... un exemple, mais c'est un effet qui est très visible pour l'ensemble de la population. Et je pense que dans les enquêtes qu'on a pu faire, nous, récemment, auprès de tous nos membres, la Chambre franco-britannique, c'est le premier réseau international de relations entre la France et l'Angleterre. Et on a donc interviewé l'ensemble de nos membres, et ils sont évidemment revenus sur qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Et en partie, alors je pourrais revenir sur d'autres points, mais sur la partie de la réglementation, ils ont dit, cette réglementation, il y en a qui en veulent plus, il y en a qui en veulent moins, c'est toujours le même débat. En revanche, ils aimeraient s'assurer que lorsqu'une nouvelle réglementation intervient, il y a un meilleur test qui soit effectué, de façon à ce qu'on puisse analyser concrètement sur le terrain
l'impact. Ouais, tout juste. Juste sur ce que traduit ce référendum aussi, Sophie Loussoir, tout de suite, Dida Gutierrez-Peris nous disait, il traduit quelque part aussi les questions autour de cette crise dans l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons, j'allais dire, plus internes, hein, quand on regarde ce référendum, quand on regarde le référendum en Écosse, automne 2014, donc il y a un an et demi à peu près.
18 septembre 2014.
Est-ce que le pays, quelque part, ne s'interroge pas sur son identité? Est-ce qu'il n'y a pas de lointains regrets, des réminiscences d'un empire perdu, par exemple,
Voilà, il y a en effet une nostalgie de l'empire britannique. Ouais. Et le Royaume-Uni est fier de son identité, de ses relations avec ses anciennes colonies. Boris Johnson a même dit que le Royaume-Uni n'avait pas besoin de l'Union européenne, qu'il pouvait avoir des liens avec le Commonwealth. C'est fallacieux, on le sait très bien, parce que ce serait beaucoup plus difficile pour le Royaume-Uni de négocier sans être membre d'une communauté de 28 nations et de 500 millions d'habitants, qui est un débouché pour l'économie britannique. Voilà, et en même temps créateur d'emplois. La raison pour laquelle David Cameron, et je reprends ce qui a été dit à propos du lancement du référendum, David Cameron, au départ en novembre 2011, était très réticent à organiser un référendum lorsque 87 députés conservateurs lui ont demandé d'en organiser un. C'est face à la montée du parti souverainiste UK Independence Party et à la victoire du UK Independence Party aux élections locales, que David Cameron, en janvier 2013, a décidé d'organiser un référendum s'il était à nouveau Premier ministre après les élections de 2015. Et je crois que l'une des raisons qui explique la victoire des conservateurs en mai 2015, c'est qu'il a promis un référendum. Voilà, et les Britanniques se sont dit, eh bien, nous voilà appelés aux urnes pour nous prononcer sur notre avenir dans l'Union européenne et les inflexions qu'on peut apporter aux institutions européennes.
Aujourd'hui, vous savez, quand on lance un référendum, et c'est vrai que s'il y avait un référendum qui était lancé, j'en sais rien, même sur le port du tablier en France par François Hollande, les gens répondraient de toute façon non, parce qu'ils ne veulent plus voir François Hollande. Est-ce que, en Grande-Bretagne, est-ce qu'au Royaume-Uni, justement, on va bien répondre à la question? Ou est-ce qu'on va faire en sorte aussi de vouloir se débarrasser quelque part de Cameron?
Je ne crois pas que ce soit un vote sanction de David Cameron.
Non, d'accord, c'est bon. Voilà. Donc là, les Britanniques, aujourd'hui, ont décidé de répondre fidèlement à la question.
Voilà. Répondre à la question, et d'autant plus qu'on parlait d'immigration tout à l'heure, et l'immigration, c'est vraiment un double phénomène. C'est l'immigration des migrants à la télévision telle qu'on l'a vue, mais c'est surtout l'immigration de l'Union européenne.
Mmh.
Parce que
l'Europe de l'Est.
Pas uniquement l'Europe de l'Est, les Français.
Les
Français, les Espagnols, les Italiens, absolument.
Il y a entre 300 et 400 000 Français donc,
à Londres.
À Londres. Vous les voyez, vous les côtoyez, vous êtes à la tête d'International SOS et du Cercle d'Outre-Manche. Il n'y a quand même pas de rejet vis-à-vis des Français quand même.
Pas de rejet vis-à-vis des Français, mais les étrangers ont fait monter le prix des actifs. L'immobilier est devenu épouvantablement cher. Londres est devenue la ville, une des villes les plus chères au monde. Ça a eu un impact. Et la classe moyenne, et on sait qu'aujourd'hui, dans tous les pays européens, et l'histoire Trump aux États-Unis, c'est la classe, c'est le mécontentement de la classe moyenne. En Grande-Bretagne, il y a l'emploi, mais en revanche, les salaires n'ont pas monté. Or, le prix des actifs a augmenté. Donc, il y a un ressentiment, un sentiment d'exclusion pour pas mal de Britanniques par rapport à une élite européenne d'une part, et puis des gens non formés acceptant des salaires très bas en Grande-Bretagne, d'autre part, qui viennent de l'Union européenne. Et là, le ressentiment est très très fort.
Je comprends, oui. Encore un mot, et puis on va appeler dans un instant Ben Aouda Abdedaïm, autre envoyé spécial de BFM Business à Londres, Didier Gutiérrez Péris de Via Voice. La question qui est posée, les Britanniques vont répondre finalement à cette question. Il n'y a pas d'arrière-pensée.
Probablement, il y en a quelques-unes, mais c'est quand même frappant de voir comment la société britannique réussit à se mobiliser à ce niveau social. Il y a des campagnes sur les étudiants, il y a des campagnes des académiques qui signaient des pétitions. Donc ça sort du politique. Et ça, je pense que montre une vivacité de la démocratie britannique qui est tout à fait remarquable et qui nous fait penser que oui, qui répondent à la question qui est posée. Même s'ils ont envie de dire non à Cameron.
Bon, 19h38, évidemment, on va se retrouver dans un instant. Les bureaux de vote, les Britanniques continuent de voter. Et oui, mais d'ailleurs, à la dernière minute, hein, poussés par les différents partis, hein, les différents, en tout cas, les deux grands ensembles, c'est ce que va nous expliquer dans un instant Ben Aouda Abdedaï. Et puis, la suite, est-ce qu'on peut voir, craindre, je ne sais pas, un éclatement du Royaume-Uni? Est-ce qu'il va falloir surveiller quand même comment vote l'Angleterre? Bon, l'Angleterre, on sait vaguement comment elle va voter. Et puis, l'Écosse? Et puis l'Irlande du Nord, justement. Et puis quel avenir aussi pour le Premier ministre David Cameron en cas de Brexit? Est-ce qu'il va quitter le pouvoir? Réponse dans un instant avec nos décodeurs de l'écho sur BFM Business, édition spéciale, donc toute la soirée, notamment à partir de 22h30, tout à l'heure jusqu'à minuit.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Date historique, ce 23 juin 2016, les Britanniques qui votent depuis ce matin 7h, bon, c'est pas fini, hein, jusqu'à 22h encore, heure locale, bien sûr. Il y aura une édition spéciale tout à l'heure à 22h30 sur BFM Business, bien sûr. Oui, autour des premières tendances. Premières tendances, pas forcément, mais on verra justement peut-être comment vont se profiler les fonds d'investissement, les hedge funds qui font leur propre sondage justement. Qui vont spéculer ou pas sur la livre. Tout ça s'annonce très intéressant, passionnant. On est ensemble jusqu'à minuit sur BFM Business, bien entendu. Et là, on va retrouver Ben Aouda Abdedaïm, l'un des envoyés spéciaux de BFM Business à Londres, qui va lui aussi nous accompagner toute la soirée. Quel plaisir de retrouver Ben Aouda Abdedaïm. Oui, les bureaux de vote sont toujours pas fermés, bien sûr, Ben Aouda. Et ce que vous nous dites, et vous en avez été témoin, c'est que les grands ensembles et les responsables des deux grands ensembles, le in et le out, poussent quelque part les derniers électeurs, les indécis, à aller faire leur devoir de citoyen.
Oui, c'est même plus que pousser. Le QG de campagne du out est en train d'envoyer des mails à ses militants pour que amis et famille se rendent d'ici à 22h heure de Londres, 23h heure de Paris, dans les bureaux de vote. Une jeune militante londonienne du IN, du maintien, vient de nous expliquer pour sa part qu'elle et ses camarades vont aller sonner aux portes des gens ce soir pour qu'ils aillent voter. En attendant, aux entrées des ponts de Westminster, à quelques centaines de mètres d'ici, ils distribuent encore et encore des tracts IN qui vantent les droits des travailleurs grâce à l'Union européenne. Il y a un facteur important à prendre en compte aujourd'hui. Il y a eu des pluies torrentielles dans le Grand Londres et dans le sud-est de l'Angleterre. Des zones sont inondées, comme on a pu le voir à 1 ou 2 kilomètres d'ici, des logements inondés. En ce moment, les transports publics sont en difficulté. Certaines lignes de métro sont fermées. Le chef du parti UKIP, il trouve son compte politique. Nigel Farage a déclaré qu'il s'attendait à ce que dans la capitale, les sympathisants du maintien restent enfin chez eux. Mais ce ne sont pas vraiment les échos qui remontent auprès du directeur de la campagne du out. Il dit amèrement que le Grand Londres et l'Écosse, les deux territoires les plus défavorables à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, sont en train de voter en grand nombre. Or, cela peut représenter non loin du quart des suffrages exprimés à l'échelle nationale. Un des principaux responsables travaillistes dans le camp du IN, dans le camp du maintien, réplique ce soir que les Londoniens et les Écossais jouissent, je cite, du même droit de choisir que n'importe qui au Royaume-Uni.
Voilà, Ben Aoud Abdedaïm. Donc c'est fondamental hein, ce qu'il vient de nous dire Sophie Loussoir. Ben Aoud Abdedaïm, Sophie Loussoir, vous êtes spécialiste de l'histoire britannique. Hein. Il va bien falloir surveiller le vote et bien distinguer entre le vote des Anglais, donc l'Angleterre, hein, qui pèse lourd, hein, c'est 85% de la population. Oui. Et puis tous les autres, voilà. Les Gallois, les Irlandais du Nord et les Écossais, 5 millions d'habitants. Oui. Moins peuplé que Londres, mais
oui, mais l'Écosse jouera un rôle déterminant dans le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, car 75% des Écossais souhaitent le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, alors que seuls 49,5% des Anglais sont pour le maintien dans l'Union européenne. Alors Londres tient un rôle particulier en Angleterre. Londres, capitale cosmopolite, qui regroupe la finance, les affaires, l'élite culturelle, qui est favorable au maintien. Donc évidemment, Londres votera majoritairement pour le maintien. Et son nouveau maire, Sadiq Khan, a fait campagne aux côtés du Premier ministre David Cameron pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne.
Ouais, Ben Aoud Abdedaïm, on a un pays quoi coupé en deux, in out ou plutôt en quatre avec les quatre grandes régions.
Oui, comme le professeur Loussoir vient de l'expliquer, il y a effectivement cette division entre finalement la capitale et le reste du pays, et puis aussi la différence entre certaines grandes agglomérations de l'Angleterre. Vous avez Birmingham et Leeds, deuxième et troisième agglomération en Angleterre, qui penchent assez nettement normalement pour le out, qui voudrait sortir. Birmingham, on est dans le centre, Leeds, on est dans le nord, et alors ça représente à eux deux, pas loin d'1,5 million de voix. Donc c'est aussi du côté de ces deux villes qu'il va falloir surveiller la poussée du out. Et puis il y a aussi les zones rurales. Vous avez aussi tout le long de la côte est anglaise qui va mal. Vous avez aussi les bastions, les anciens bastions industriels du nord qui sont aussi, en tout cas dans les enquêtes d'opinion, plutôt du côté même... plutôt beaucoup du côté de la sortie. Donc voilà, ce sont ces ensembles-là qu'il va falloir surveiller pour voir si éventuellement ce sera suffisant en termes de voix pour contrebalancer effectivement ce trio Irlande du Nord, Écosse et le Grand Londres, et qui sont pas loin de représenter un tiers des suffrages à l'échelle nationale.
À tout à l'heure, Ben Aoud Abdedaïm pour BFM Business. Depuis Londres, oui, Didac Gutierrez-Péris, directeur de Viavoy, spécialiste des affaires européennes, donc au sein de l'Institut de sondage et d'opinion. La carte électorale, là, elle est encore plus décisive qu'ailleurs. Hein.
Oui, c'est vraiment, je pense, un des points essentiels quand on disait que le Royaume-Uni est en train de lancer plusieurs invitations à réfléchir au reste de l'Europe. une des invitations, c'est clairement cette idée des fractures. Arnaud Vessier disait cette idée de fracture socio-économique. Elle est aussi une fracture régionale entre l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, entre des pays qui se fracturent aussi au niveau régional. Donc l'idée même de fracture que laisse l'analyse électorale et de l'opinion publique de ce référendum est une autre des invitations à réfléchir au niveau continental, non ? Quelles autres fractures peut-on voir dans les mois à venir ?
Arnaud Vessier, à la tête du Cercle d'Outre-Manche International SOS également, c'est votre société. Qu'est-ce que ça va laisser comme trace, justement, à partir de demain, quel que soit le résultat, Brexit, Bremen, justement, avec l'Angleterre, et au sein de l'Angleterre, Londres, qui se distingue, qui va voter pour l'Union européenne, et puis le reste, l'Écosse, qui aura peut-être encore des fourmis dans les jambes, qui a peut-être redemandé des choses, les Irlandais du Nord, ils ne sont pas nombreux, mais il ne faut pas les oublier, les Gallois encore moins.
Oui, on a vu avec l'Écosse l'émergence, la réémergence des nationalismes locaux, ouais. En particulier le Pays de Galles, par exemple, qui est beaucoup, beaucoup plus nationaliste et revendique son identité culturelle beaucoup plus fortement qu'il y a 20 ans.
Donc, et pourquoi, pardon, c'est dû à quoi?
L'Écosse, à partir du moment où l'Écosse
a donné le là, d'accord.
Donné là, à partir du moment où l'Écosse a ravivé très très fortement la différence régionale, les Gallois se sont sentis beaucoup plus gallois et beaucoup moins anglais. Donc ces particularismes régionaux sont forts. L'Écosse, à mon avis, pour le moment, bougera pas parce que le pétrole à $50, l'Écosse n'est plus du tout dans la situation où elle était au moment où elle a voté.
Donc, fin 2014, avec un baril qui était deux fois plus. Voilà, c'est ça.
Et aujourd'hui, là, l'équation économique serait certainement beaucoup moins favorable. Et donc, je pense que de ce côté-là, l'Écosse sera plus prudente. Cela n'empêche que, pour l'Europe aussi, c'est un élément de plus dans l'émergence des nationalismes qu'on a en Espagne et qu'on a en Belgique, qu'on voit un peu partout. La France étant ce pays monolithique centralisé, nous on arrive à éviter ce type de tension.
Mais... Oui, enfin il y a du vote contestataire en fait, parce que finalement le vote Brexit, il y a une forme de contestation nécessairement aussi. Il y a évidemment un souhait probablement de s'isoler de l'Union Européenne, mais quelque part est-ce qu'il ne faut pas exclure que derrière on a envie de dire non aux élites, non aux élites bruxelloises, non à Londres qui s'est alignée en permanence, enfin même s'ils ont fondé sur les oukases, les diktats bruxellois.
Je crois que la victoire du Brexit serait une menace à la démocratie et ouvrirait la voie au populisme de toutes sortes en Europe, et ce serait une contestation de l'élite politique, économique et culturelle du Royaume-Uni, et ça ouvrirait la voie en effet à un possible Frexit, Grexit, à l'organisation de référendums aux Pays-Bas, en Hongrie, en Pologne.
Le leader populiste d'extrême droite, Geert Wilders, aux Pays-Bas, veut lui-même son... Alors, je ne sais pas comment on dirait pour les Pays-Bas, oui, c'est un peu compliqué à dire, Brexit, bon bref, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire pour les Néerlandais. On sait très bien que du côté du Front National, on a également des envies.
Marine
de
Le Pen l'a réannoncé.
Bien sûr, et on va voir ce qui va se passer en 2017. C'est dans un empile, hein, maintenant, l'élection présidentielle. Olivier Campenon, de la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique.
Juste pour continuer la réflexion sur cette régionalisation, nationalisation, on voit économiquement l'Europe évoluer de plus en plus vers une économie d'agglomération, de grandes villes. Évidemment, on parle de Londres, Édimbourg, Belfast, Manchester. À chaque fois, vous allez avoir des équations qui sont un petit peu différentes. Et c'est vrai dans notre pays, quand même la France soit un peu il y a Paris, mais il y a aussi Lyon.
On essaie de construire le Grand Paris, il y a un système de métropole qui est en train de se mettre en place en France.
Devra être pris en compte par la Commission européenne, parce que c'est quelque chose qui, finalement, n'apparaît nulle part, alors même qu'elle est demandée par les citoyens et par l'économie.
Juste encore un mot sur les disparités régionales, juste sur l'Écosse, parce que Arnaud Vessier m'y fait penser, en rappelant très opportunément que le pétrole, maintenant, est à $50, deux fois moins que lors du référendum de septembre 2014, enfin, il y a un an et demi, très bien. 70% des électeurs en Écosse sont favorables au maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Le Parlement écossais est presque unanimement pro-européen. Ça veut dire quoi pour l'instant? Ils ne vont pas relancer le processus, Madame Nicola Sturgeon, la chef du SNP?
Ça, on ne le sait pas. Nicola Sturgeon a dit que si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, elle voulait que l'Écosse fasse partie de l'Union européenne et donc organiser un référendum sur l'indépendance de l'Écosse.
Elle n'a pas la majorité absolue au Parlement écossais.
Elle n'a pas. Ouais. Elle a perdu la majorité puisque les conservateurs sont arrivés en deuxième position et Ruth Davidson a fait campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ce qui fait la force du maintien en Écosse, c'est que tous les partis confondus, le parti nationaliste écossais de Nicola Sturgeon, les conservateurs de Ruth Davidson, les travaillistes et les libéraux démocrates sont favorables au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne.
Didac Gutierrez-Péris de Via Voice.
Oui, c'est quand même symbolique l'utilisation même de l'Écosse de la part de David Cameron. On était censé avoir voté pour 50 ans. Et le dernier meeting qu'il fait, il dit que le point essentiel, c'est que j'ai peur d'un deuxième référendum. Ouais. Donc l'Écosse, quand même, a joué un rôle vital dans tout ça.
Ouais, une autre question aussi sur l'Irlande du Nord.
Oui, alors l'Irlande du Nord.
Tiens, comment sont profilés les protestants, les catholiques, sur le in et l'out? Il y a des grands ensembles, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe en Irlande.
Oui, tout à fait. Alors, l'opinion publique en Irlande du Nord est favorable au maintien dans l'Union européenne.
D'accord.
Parce que l'Union européenne a soutenu le processus de paix en Irlande du Nord dans les années 1990. Et pour les Irlandais du Nord, ce serait un traumatisme terrible d'avoir une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Donc pour les Irlandais du Nord, on peut dire que à la majorité, ils voteront pour le maintien.
Sur la campagne, on a cité plusieurs noms tout à l'heure, Nigel Farage, on a cité Boris Johnson.
Gove également, le ministre de la Justice, très agressif.
De David Cameron, mais lui, pro-Brexit.
Il a toujours été eurosceptique. Il n'y avait pas de surprise à voir Michael Gove soutenir le Brexit, car pendant toute sa carrière politique, il a été eurosceptique et favorable à la sortie du Royaume-Uni. En revanche, ce qui est plus surprenant, c'est le positionnement de l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, pour le Brexit, tout simplement par opportunisme
politique. Il joue sa carte perso.
Voilà.
Il mise sur un Brexit, donc un Brexit sur lequel s'est engagé David Cameron, donc éventuellement David Cameron. Qu'est-ce qu'il ferait, par exemple, s'il y a le Brexit demain, Sophie Lesworn?
Boris Johnson s'attend à ce que David Cameron démissionne.
Parce qu'il s'est bien engagé
s'est battu pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ce serait un désaveu pour le Premier ministre, une crise du leadership de David Cameron. Et donc, Boris Johnson se verrait comme le nouveau chef du Parti conservateur, appelé à unir le Parti conservateur et appelé à renégocier les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Et Cameron, imaginons qu'il y ait le Brexit demain matin. Alors, les électeurs ont encore un petit peu plus de 3 heures pour voter, puisqu'il n'est pas tout à fait. Il est 8h moins 5 ici à Paris. On en a jusqu'à 23h, heure de Paris. Sophie Lesworn, si jamais c'est le Brexit demain, David Cameron, dans quel délai il peut dire cette fois, on demande le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne? Il a un délai ou il peut le faire instantanément?
Non, mais alors, la négociation prendra deux ans,
bien sûr,
puisque l'article 50 du traité de Lisbonne...
À quel moment il appuie sur le bouton pour demander, ça y est, le début des négos?
Dans la semaine qui suit.
À la semaine qui suit, d'accord. Donc, il serait assez pressé de le faire. Arnaud Vessier.
Oui, pour Boris Johnson, c'est du win-win. S'il y a Brexit, Cameron devra partir. Sa situation est insoutenable, puisqu'il aura échoué. Et donc, il y aura un leadership, un vote... Et Boris Johnson sera évidemment celui qui a été la figure de proue du camp du vainqueur. S'il perd, c'est pas grave, puisque Cameron, de toutes les façons, ne se représente pas à la prochaine élection. Il va donc y avoir un contest pour la nomination du nouveau Premier ministre. Or, c'est pas uniquement les parlementaires qui votent, c'est beaucoup plus élargi. Et le cercle élargi des gens qui votent est très anti-européen. Et donc, Boris Johnson, toute sa logique, c'est de dire, je me suis présenté comme le chef des anti-européens, qui sont plus nombreux au moment de la réélection.
Donc, votez pour moi.
Et donc, ils vont voter pour moi. Donc, de toute façon, je gagne si je gagne tout de suite et je gagne si je gagne plus tard. C'est en fait un calcul exactement semblable à ce qui s'était passé en France avec Laurent Fabius au moment du référendum sur le traité.
Oui, où il avait voté, il militait pour le non, Laurent Fabius à l'époque. Hein.
Qui avait surpris tout le monde.
Bien sûr.
Et qui était une tentative de prise de contrôle du parti.
Socialiste, oui, tout juste. Ouais. Dida Gutiérrez-Péris,
oui,
Via Voice.
Rapidement, mais c'est vrai que les données aussi électorales montrent que non seulement il veut se positionner dans cette vague anti-européenne ou moins, disons, européenne que le reste, mais il a aussi joué avec un langage très UKIP. Donc, il voit aussi le moment, l'opportunité de surfer un petit peu sur cette dérive populiste
bien sûr.
En Grande-Bretagne.
La grosse île 13, c'est ce que vous voulez dire, quoi, finalement.
Voilà, ah. Qui aussi fait penser qu'il va au-delà de l'Europe. Il est en train de se positionner dans le nouveau, dans le nouveau échiquier électoral anglais, où une partie très importante, et rappelons, l'UKIP a gagné les élections européennes en 2014.
Bien sûr.
Donc, il est en train de peut-être miser aussi sur ce point-là.
Ouais, et juste encore un mot, puisqu'on va s'intéresser aussi au marché dans un instant. Est-ce que les marchés n'ont pas déjà voté, quand on voit eh bien encore aujourd'hui la Bourse de Londres qui a gagné 1,2%, Paris qui a gagné presque 2%, on va en parler d'ailleurs dans un instant avec Marco Bruzzo, donc, qui est gérant chez Mirabeau Asset Management. La presse britannique aussi, très importante. Autre acteur important de la campagne. Vous avez cité Michael Gove, on a cité Boris Johnson.
Le Financial Times, alors, le Guardian, le Times.
Le FT, simplement. La patronne du FT, elle sera avec nous tout à l'heure à 22h30.
Hein. Et The Economist ont appelé à voter pour le maintien, pour très Brennan, clairement. Ouais. L'Independent, encore ce matin, a appelé les électeurs à voter pour le maintien. L'Economist a titré vendredi « Divided, we fall ». C'est assez parlant.
Le Sun pour le Brexit.
Le Sun
est pour le Brexit. Le Sunday Times et le Sunday Telegraph sont pour le Brexit.
Bon.
Alors, il est vrai que pour David Cameron, un Brexit serait une tragédie car il serait le premier ministre britannique qui ferait sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne et ce serait le premier pays à sortir de l'Union européenne.
Il joue son bateau. Il joue peut-être une bateau. Place dans l'histoire même du pays, hein, du Royaume-Uni. On y reviendra puisqu'on est ensemble toute la soirée. Le programme, je vous le donne, hein, il est bientôt 20h. Donc 19h à Londres, il leur reste encore aux Britanniques 3h pour voter. Et comme nous le disait tout à l'heure Benaouda Abdelhaim, le camp du Yaout hein, qui fait quasiment du porte-à-porte pour aller chercher donc les électeurs, leur dire allez voter, dépêchez-vous, il reste encore 3h. Donc on voit, rien n'est encore fait. Tout à l'heure, donc, édition spéciale à 22h30 sur BFM Business, jusqu'à minuit avec d'autres experts, d'autres acteurs. Évidemment, on sera toujours avec nos envoyés spéciaux. Il y aura une petite pause au milieu, Tech & Co. avec Frédéric Simotel, comme tous les soirs, bien entendu. Allez, on va se retrouver dans un instant. Oui, on va s'intéresser au marché, toujours avec Sophie Lussoir, Arnaud Vessier, Olivier Campedon, et puis Didac Gutiérrez-Péris de Via Voice. Bonne soirée, on revient tout de suite. Édition spéciale, émission spéciale toute la soirée, évidemment. Journée historique ce 23 juin.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, les décodeurs de l'écho autour de cette journée historique que vous allez vivre avec nous toute la soirée sur BFM Business, à la télé, à la radio, avec une édition spéciale tout à l'heure à partir de 22h30 avec toujours avec nous nos décodeurs de l'écho, Sophie Lussoir, une grande spécialiste du Royaume-Uni. Elle est professeure à Sorbonne Nouvelle Paris 3. Arnaud Vessier qui vient de Londres, il est à la tête d'International SOS, cofondateur du Cercle d'Outre-Manche. J'accueille Marco Bruzzo. Bonsoir. Marco Bruzzo qui est gérant action européenne, directeur général délégué de Mirabeau Asset Management. Dida Gutiérrez-Péris, directeur de Via Voice, chargé des affaires internationales. Et puis Olivier Campenon, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique. Sans oublier nos envoyés spéciaux, Grégoire Favet, Benaoud Abdedaïm et Madame Delphine Liu, toujours à Londres. Sous la pluie ou pas, Delphine?
Ça se calme un petit peu.
Bon, alors oui, Delphine, là, il nous reste 3h, même plus maintenant, hein, 3h moins quelques minutes, pour voter in, out, le maintien dans l'Union européenne ou la sortie de l'Union européenne pour les Britanniques. Hein. Où est-ce qu'on en est? Forte participation? Les résultats sont attendus à quelle heure? Racontez-nous donc.
Alors, eh bien, forte participation, a priori, effectivement, même si, contrairement à la France, on n'aura pas d'indication sur ce taux de participation. Mais en tout cas, en croire les réseaux sociaux, eh bien, ça se bouscule au portillon, dans les urnes. On voit des photos avec des queues jusqu'à l'extérieur même des bureaux de vote. La pluie ne semble donc pas avoir stoppé, freiné les gens, les électeurs d'aller voter. Il y a quand même eu de grosses inondations, notamment dans le sud du pays, qui ont obligé certains bureaux de vote même à déménager. Petit mot également sur cette participation. Il semble, en tout cas, c'est ce que les commentateurs politiques disent, que si elle est forte, eh bien, ça pourrait favoriser le camp du maintien. Côté sondage, les tout derniers sondages réalisés sur Internet semblent donner le camp du maintien dans l'Union européenne gagnant. Des sondages, il faut bien le dire, qui se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Des sondages qui sont peu fiables. On l'avait vu encore lors de la dernière élection législative ou encore lors du référendum sur le maintien de l'Écosse au Royaume-Uni. C'était, pardonnez-moi l'expression Fabrice, totalement planté. Les bookmakers, eux, donnent le camp du maintien largement gagnant à plus de 80%. Quoi qu'il en soit, on n'aura pas les résultats avant tard dans la nuit, voire tôt demain matin. Certains hedge funds et investisseurs ont commandé leur propre sondage sorti des urnes. Et donc, il se peut que selon les indications de marché, on puisse avoir une tendance du vote. En clair, si on voit la livre chuter, les obligations, les valeurs refuges grimper, ça voudrait dire donc une victoire. Ça indique une victoire du Brexit, et puis inversement, si la livre remonte, eh bien ça voudrait peut-être dire une victoire du camp du maintien dans le Royaume-Uni. Réponse en tout cas officielle tôt demain matin.
Oui, tôt demain matin, ou plutôt, tiens, juste encore un mot, restez avec moi encore quelques instants, Delphine Liu, à propos de la livre, des mouvements éventuels sur la livre. C'est vrai que dans certains bureaux de change, on a vu des Britanniques venir avec leur livre sterling et à la place demander des dollars ou des euros. C'était marginal ou répandu?
Alors, on a effectivement lu cette information dans la presse, vu des dépêches à ce sujet. Probablement des gens qui partent en vacances et qui n'ont pas envie, en cas de Brexit, de voir la livre plonger et du coup se retrouver avec pas beaucoup de sous pendant leur congé. En tout cas, nous, on allait vérifier cette information aujourd'hui dans le centre de Londres, dans les bureaux de change. Il n'y avait absolument pas de mouvements anormaux. Simplement, voilà, période et donc, pas de mouvements particulièrement anormaux ici dans le centre de Londres, mais peut-être que à l'extérieur c'était effectivement le cas.
Ouais, un épiphénomène, comme on dit. Oui, mais à tout à l'heure, Delphine Liu, accompagnée de Alice Fenwick, qui va nous accompagner toute la soirée jusqu'à minuit, et bien entendu, on va les retrouver avec un énorme plaisir. Tiens, Marco Bruzzo, donc directeur général délégué de Mirabeau Asset Management. L'impact sur les marchés, la réaction des marchés. J'ai envie de dire, est-ce que les marchés n'ont pas déjà voter à leur façon, quand on voit aujourd'hui, encore une fois, les places financières grimper, Paris, plus 1,9%, 4461, Londres, plus 1,2%, Francfort, plus 1,7%, on verra ce qui se passe d'ailleurs tout au long de la soirée aussi du côté de New York, racontez-nous.
Bah vous avez raison, le grand du chemin a déjà été peut-être fait depuis une semaine, où on voit depuis vendredi dernier que le marché a déjà rebondi de plus de 7%. Aujourd'hui, c'était entre guillemets la dernière journée. On voit aussi que même la dernière journée, le marché s'emballe, et il s'emballe en plus avec les valeurs à fort bêta. Je pense notamment aux financières, que ce soit les banques, les compagnies d'assurance, qui ont pris entre 4 et 7%, ce qui montre qu'on est dans un marché risk-on, avec une volonté de croire au Remain.
Et qu'est-ce qui peut leur donner raison? Qu'est-ce qui leur donne laisser à penser que le in peut passer donc la nuit prochaine?
Alors comme on l'a dit, il y a un certain nombre de hedge funds qui ont fait appel à des sondages privés. Et à travers ces enquêtes, ils ont payé à peu près 500 000 dollars pour avoir ces enquêtes. Alors pour les hedge funds, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un montant significatif. Et grâce à ces sondages, au fur et à mesure de la journée, ils ont pu avoir des tendances. Donc effectivement, on voit au gré des mouvements sur le marché que peut-être tel ou tel hedge fund a pu intervenir. l'avenir. Et comme on le disait auparavant, effectivement, la tendance semble quand même donner, en tout cas dans les sondages et surtout dans les bookmakers, une grande avance au Brimain.
Ouais, juste Didac, Via Voice travaille avec des hedge funds ou pas? Parce que vous avez une implantation là-bas, vous avez des implantations à Londres.
Hein. Oui,
François-Mickey Martin nous en a déjà parlé.
Des gens à Londres, mais juste peut-être un petit commentaire d'insider. C'est vrai que c'est en plus le sondage le plus cher à faire. Parce que faire un sondage électoral ou même du jour électoral représente une mobilisation d'enquêteurs très importante, essayer de clarifier l'échantillonnage pour qu'il soit représentatif. Donc c'est aussi symbolique de l'importance que les marchés octroient à cette journée historique s'ils décident de mobiliser
des
investissements pareils.
Ouais. Marco Bruzzo, donc... demain, qu'est-ce qui va se passer donc la nuit prochaine? Je dis demain parce que je me projette déjà au 24 juin. Il va se passer des choses, des longues heures, de trop longues heures peut-être pour certains à attendre. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Comment est-ce qu'ils vont organiser leur nuit, tous ces opérateurs de marché?
Bon, si je savais ce qui se passerait demain, je serais peut-être pas en face de vous, parce que je me dirais, bon, j'ai la réponse, donc il faut faire un pari très marqué.
Mais il y a une attente qui est longue, une pression terrible, une tension.
Pour vous dire, il y a une pression, il y a une attente depuis maintenant 3 semaines, hein, dans les salles de marché, on le voit, les volumes ont été considérablement réduits. On voit l'importance des hedge funds qui ont ou bien leveragé au début du mois de juin leur position, donc en donnant plus de poids sur des shorts, ou bien déleveragé depuis une semaine à peu près pour justement réduire leur risque en cas de victoire de Brimain. Et donc effectivement, il y a eu beaucoup beaucoup de tensions, je dois vous dire, depuis le début du mois. Et là, plus on se rapproche de la date, plus les choses semblent se stabiliser. Demain, comme on le disait aussi, aujourd'hui il y a à peu près dans les sondages, en tout cas 42% de votes favorables au Brexit, 44% favorables au Remain, et on a 13% d'indécis. C'est vrai que historiquement, les indécis sont plutôt des gens rationnels, donc sont plutôt des gens qui ne sont pas dans une logique à la Brexit de vouloir négocier une sortie du UK. Maintenant, il est très délicat de se prononcer. C'est vrai que les hedge funds, les gens de salles de marché regardent particulièrement tout ce qui se passe sur les aspects effectivement sondage d'une part, et puis bookmaker, et les bookmakers donnent une grande victoire. Donc aujourd'hui, quand on voit le marché qui prend 2%, c'est vrai que le marché, par ce geste, a déjà acté une grande partie de la hausse.
Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller particulièrement la nuit prochaine?
Disons que si le Brimain se fait, en l'occurrence, c'est vrai qu'il va y avoir une stratégie, notamment de la part des gérants actions, pour peut-être remettre un peu de risque. Aujourd'hui, le marché a baissé, mais c'est vrai que il y a plus de 50% des valeurs qui sont à 5% de leur plus haut historique sur 2016. Néanmoins, si on regarde les valeurs considérées à fort bêta, je pense encore une fois aux valeurs bancaires, automobiles aussi, ce sont là, par contre, des valeurs qui sont encore à moins 25, moins 30%. Donc si effectivement le Brimain est voté, ces valeurs-là risquent, un peu comme on le disait aujourd'hui, de très fortement rebondir.
De se rattraper, oui. Et dans le cas contraire.
Alors, dans le cas contraire, on inverse les performances d'aujourd'hui, c'est-à-dire les utilities, la pharma et tout ce qui est consommation non cyclique qui était en queue de peloton. Parce que justement, bêta plus faible et valeurs peu risquées, là pour le coup serait recherché par les investisseurs pour à nouveau se protéger. Et inversement, les mouvements très forts à la hausse qu'on a connus sur les valeurs à fort bêta comme les banques, où on a eu une hausse de 15% en l'espace de 4 séances, là serait à nouveau attaqué fortement. Peut-être le dernier commentaire, c'est de dire, on a quand même un biais assez asymétrique, c'est-à-dire si on est dans le Brimain, on pense qu'il y aura une poursuite de cette hausse, mais bien moins forte que celle que l'on a déjà connue depuis une semaine. Si à l'inverse, il y a un Brexit, il y a un risque de correction bien plus important.
Et on ne sait pas dans quelle proportion?
Alors les proportions, elles dépendent en fait des flux. Mmh. Et là, pour le coup, les flux, malheureusement, on n'a aucune idée de leur poids. Mais effectivement, si on avait un Brexit, une baisse de l'ordre de 7-8% au minimum, à notre sens, serait à envisager.
Arnaud Vessier et juste après Olivier Campenon. Arnaud.
Moi, j'ai pas d'opinion très spécifique sur ce que donneront les marchés. Je pense qu'effectivement, 7-8-10%. Serait plus l'ordre de grandeur qu'on devrait avoir en tête plutôt que les 20% qui ont été mentionnés, qui pour moi me paraissent une fluctuation considérable pas supporté par une variation de l'activité économique à court terme.
Oui, Olivier Comprenant, vous avez des activités dans la finance, puisque vous avez une société qui s'appelle la financière de la clarté.
Si tant est qu'on puisse trouver de la clarté dans la finance, surtout
surtout en Grande-Bretagne et un soir d'élection.
Et c'est un point que je voulais soulever, c'est que vous avez justement placé comme titre une date historique,
oui.
et on aurait pu rajouter une date historique et unique. C'est finalement la première fois qu'on se retrouve devant un tel événement qui a une telle conséquence potentielle et avec le monde entier et en particulier nos amis de la finance en attente de du 11h, donc maintenant dans 2h30, et prêt à réagir. Et ce qui va être sans doute assez compliqué, c'est que, vous l'avez rappelé, il va y avoir un certain nombre de sondages qui vont sortir, les sondages ex-urnes, qui peuvent donner des tendances, mais évidemment les marchés vont pré-réagir, mais devoir attendre jusqu'à 4h du matin les résultats officiels. Et donc on va vivre,
c'est pour ça,
entre 11h et 4h du matin, une période qui peut soit être très calme parce que les sondages sont assez clairs, soit au contraire ils sont justes, et là on va retomber dans une incertitude.
C'est pour ça, Marco Brozzo, quand je vous demandais tout à l'heure, vous êtes à la tête de Mirabeau Asset Management, comment est-ce que vous allez vivre la nuit prochaine, une nuit pleine de tensions, vous n'allez pas aller dormir.
Alors, nous, on a beaucoup de chance, Fabrice.
Ouais.
On a énormément de chance. C'est que nous, de toute façon, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que sur nos marchés equity, jusqu'à 9h demain matin, ou au mieux 8h sur les futurs, on ne peut pas travailler. Il y a uniquement les aspects change qui peuvent jouer, et puis le marché asiatique qui prendra le relais. Donc nous, en tant que gérant sur les actions européennes, on peut effectivement juste suivre, mais on ne peut pas intervenir. Maintenant, sur l'échange, effectivement, on aura déjà une tendance assez claire de ce qui va se passer si on a un Brimen sur la livre sterling. Mais en l'occurrence, nous en tant qu'opérateurs, on ne peut que suivre les résultats sans faire grand-chose.
C'est nuit blanche ou pas pour vous, par exemple?
Ça sera une nuit très courte. Alors,
ouais.
Blanche, je ne sais pas, puisqu'on a les résultats normalement aux alentours de 4h, 4h30. Alors, en fonction du résultat, l'excitation sera peut-être telle qu'on n'arrivera plus à dormir, comme quand on sort de boîte de nuit et qu'on est très content. Mais si on est un peu plus calme...
Vous allez souvent
Non, plus maintenant, ça fait au moins 10 ans.
Bon.
Mais si on est un peu plus calme, oui, peut-être qu'après on pourra trouver. Mais c'est vrai que cette nuit, jusqu'à 4h, on va regarder toutes les indications possibles.
Et vous avez l'impression que tout le monde sera prêt, les infrastructures vont suivre, justement, parce qu'à un moment, ça va s'agiter nécessairement. Hein. C'est Stéphane Boujna, le patron d'Euronext, qui était avec nous avant-hier, qui nous disait comment chez Euronext, bon, c'est une image évidemment, ils ont mis en place des gros tuyaux pour pouvoir tout absorber, tout gérer d'un seul coup. Oui, vous pensez que ça va suivre ou pas? Ou alors tout va s'emballer, dingue?
Je pense que ça va suivre. Comme je vous dis, entre guillemets, la chance qu'on a, c'est que nos flux vont être de toute façon bloqués. Donc déjà, la période de minuit jusqu'à 4h30 sera une période de toute façon où, quelles que soient les indications qu'on aura, on ne pourra rien faire. Donc ça limitera. Je pense qu'au contraire, sur l'Asie, on risque d'avoir des mouvements et une volatilité extrêmement forte. Donc pour les gérants asiatiques, là, pour le coup, je pense qu'ils vont avoir une nuit extrêmement raccourcie.
Rendez-vous depuis l'Asie, hein, tous les matins avec Stéphane Soumier dans Good Morning Business aux environs de 6h20 avec toute sa petite bande, qu'elle soit à Singapour, à Shanghai ou ailleurs. Sophie Lussouarn.
Oui, alors je crois qu'en cas de Brexit, ce serait un traumatisme pour la place financière de Londres, pour les entreprises britanniques. On peut envisager en effet un déplacement des investissements vers l'Asie, je crois. Et comme l'avaient dit les investisseurs japonais, nous souhaitons que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Ils ont de forts investissements, notamment Hitachi dans le nucléaire et dans les chemins de fer. On peut envisager que également l'industrie automobile japonaise se déplacerait et quitterait le Royaume-Uni. Et ça aurait un impact en termes d'emploi également au Royaume-Uni.
Arnaud Vessier.
C'est le seul endroit où potentiellement il aurait pu y avoir un déplacement en cas de Brexit en faveur de la France et de Paris. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas très bien positionné en ce moment pour récupérer une partie de la place financière de Londres.
Qu'est-ce qui nous manque? Peut-être un climat social apaisé, une fiscalité agréable, des infrastructures au rendez-vous?
Je pense essentiellement une fiscalité, et une fiscalité, c'est normal.
Non confiscatoire.
Alors qu'aujourd'hui, la fiscalité est vue comme effectivement confiscatoire. Je crois aussi que, en particulier, la finance américaine réagira beaucoup plus vite. C'est-à-dire que les banques américaines, là, je pense que le plan B est pas loin et que la réaction sera assez rapide. en termes d'emploi, et là potentiellement même négatif sur l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire une vision un peu négative sur l'Europe, comme vous le disiez, qui passerait de la Grande-Bretagne sans dire qu'il y aura un rebasculement automatique sur le continent. Et donc là, on y perdrait tous un peu. Cette option Brexit aura des vraies conséquences. Je pense que sur le plan industriel, je suis beaucoup, beaucoup moins convaincu. Les plans sont beaucoup plus à long terme. Les droits de douane seront maîtrisés à terme. Donc, c'est la finance qui bougera.
Oui, ça bougera, Olivier. Non, les banques vont quitter le Royaume-Uni ?
Non, elles ne quitteront pas le Royaume-Uni.
Si, c'est le Brexit. Hein. Pour l'instant, on s'avancera un peu en parlant. Il reste 2h30. Hein.
On l'a vu au cours des soubresauts et des crises précédentes. La City a toujours su réagir et finalement en ressortir même un peu plus forte.
Est-ce que c'est pas là quand même une crise, quand même, enfin une crise, en tout cas un événement majeur au-delà de tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent ?
C'est un événement majeur, mais avec un tel point d'interrogation. Qu'est-ce que deviendra le passeport européen ? C'est finalement la clé. Si le passeport européen disparaît complètement, effectivement, c'est automatiquement une redistribution des cartes.
Le passeport européen, on va le rappeler, hein, c'est la possibilité.
La possibilité donc pour les institutions financières d'utiliser la place de Londres, de la City, pour couvrir
rayonner dans l'ensemble de l'Europe, bien sûr.
Voilà, donc ce sont évidemment des éléments structurels et auxquels la City devra s'adapter, d'où, et je rejoins tout à fait mon collègue, soit un rapatriement de ces instances-là sur les États-Unis qui sont les premiers à agir, soit au contraire un déplacement vers l'Asie, mais qu'on ne sent pas assez parce qu'ils n'ont jamais su peser.
Et ce passeport européen pourrait être remis en cause si il y a un Brexit ?
Si il y a un Brexit et si ils ne choisissent pas d'aller dans l'espace économique
européen, bien entendu. Marco Bruzzo, donc, l'ouverture des marchés actions européens, demain matin à 9h, ça va être très surveillé, bien entendu.
Oui, ça sera très surveillé. Je compléterai effectivement ce que vous disiez sur le fait que si effectivement il y a Brexit, ça continuerait malheureusement à donner une image des marchés européens assez fragile. Je ne parle pas tant des investisseurs européens, mais justement des investisseurs américains, des investisseurs asiatiques qui ont déjà réduit assez massivement leur exposition sur les marchés européens. Et si effectivement il y avait Brexit, l'étape suivante, c'est de dire il y a eu une Angleterre, maintenant il y aura peut-être une Hollande, il y aura peut-être un autre pays, et donc d'un point de vue de la confiance des investisseurs, notamment internationaux, ça donnerait lieu à une poursuite du désamour entre guillemets des actions européennes, et ça effectivement en termes de flux et en termes de tendance structurelle, ça aurait un poids très préjudiciable.
Un mot encore Olivier Comte-Nom, parce qu'on va se quitter dans un instant. Oui. Avant de revenir, bien sûr.
Nous avons abordé beaucoup le Brexit, le Remain va aussi nécessiter des actions. Peut-être pas demain ou après-demain, mais il va nécessiter des actions dans le monde de la finance, parce qu'effectivement, il faut réaccélérer le financement des entreprises européennes. C'est une partie de ce que nous dit le peuple britannique, c'est que l'Europe n'a pas répondu à nos attentes. Donc c'était un des nombreux exemples sur lesquels on attend la Commission européenne, et en particulier la présidence de M. Cameron, si le Remain devait être voté.
Bon, il est 20h25, vous allez retrouver dans un instant Frédéric Simotel hein, pour Tech & Co avec toute son équipe, et puis je vous retrouverai tout à l'heure à 22h30 hein, pour une édition spéciale sur BFM Business jusqu'à minuit, alors que les Britanniques ont encore 2h30 à peu près pour s'exprimer sur le in, le out, évidemment, journée historique ce 23 juin 2016. Je dis au revoir provisoirement, puisqu'on va les retrouver tout à l'heure, Sophie Lousoirne, professeure donc à l'Université Sorbonne Nouvelle, également Arnaud Vessier qui reviendra tout à l'heure à 22h30. On va aller manger un petit truc hein, tranquillement, voilà, à la santé des Britanniques. Merci Marco Bruzzo d'être venu ce soir. Vous êtes un des fidèles de Intégral Bourse avec Grégoire Favet. Vous êtes le directeur général délégué de Mirabeau Asset Management. Merci à Dida Gouthière-Espéris, directeur Via Voice des Affaires Européennes. Et puis Olivier Cantenot, directeur de la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-britannique.
Président depuis aujourd'hui.
Président, félicitations, cher président. Voilà, on revient vite évidemment, 22h30, vous serez avec nous. On aura peut-être des débuts de tendance pour vivre justement eh bien, ce référendum britannique. Restez avec nous, bonne soirée, à tout à l'heure.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.